Est-ce que l'anglais est un critère d'embauche pour une entreprise à Montréal? La réponse est oui, dans une forte majorité. On découvre donc que 63 % des entreprises québécoises demandent, au moment d'embaucher du nouveau personnel, que le candidat retenu ait certaines compétences linguistiques en anglais, donc capable de se débrouiller, capable de travailler. Ça paraît énorme dans les circonstances. Évidemment, pour l'ensemble du Québec, c'est moins, mais c'est quand même autour de 40 %. J'en parle avec le ministre de la Justice et celui qui est aussi responsable de la langue française, Simon Jolin-Barrette. Monsieur Jolin-Barrette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Quand vous voyez le pourcentage, 63 % à Montréal, vous trouvez ça inacceptable?
Oui, tout à fait. C'est extrêmement préoccupant. Et puis, c'est un chiffre qui est très élevé.
OK. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Autrement dit, est-ce que dans l'étude, on est capable de décortiquer un peu ce critère de connaissance de l'anglais? Est-ce que c'est dans le secteur touristique? Est-ce que c'est dans des secteurs où ça peut se défendre? Ou vraiment, c'est comme partout?
Bien, c'est sensiblement généralisé à plusieurs entreprises. C'est sûr qu'il y a certains secteurs qui sont plus... qu'il y a une exigence de l'anglais qui est plus grande, nécessairement. Mais dans l'étude aussi, il y a le 63 % qui dit que c'est des compétences qui sont souhaitées ou exigées pour avoir le poste. Mais l'autre chiffre qui est important et qui est plus préoccupant, je vous dirais, c'est le fait que 41,4% des communications à l'interne doivent se faire en anglais. Donc, je donne un exemple. Supposons que vous faites des relations commerciales avec l'extérieur, avec d'autres pays ou avec des clients. Ça se peut que votre vendeur ou votre préposé à la clientèle doivent parler anglais. Mais par contre, le fait de communiquer dans un même établissement entre collègues en anglais ou avec le patron en anglais à de l'ordre de 40 %, là, il y a une problématique.
Est-ce que vous me parlez d'établissement où même la loi impose le français comme langue de travail?
Oui, effectivement. Alors, c'est ça qui est préoccupant à Montréal. Donc, dans 40 % des cas, on dit ben les communications à l'interne doivent se faire en anglais entre les collègues ou avec le patron. Et on ne parle pas d'un siège social, supposons, qui serait dans une autre province canadienne, dans un autre État. On parle vraiment d'un établissement qui est au Québec, supposons, sur l'île de Montréal et à l'intérieur même de cet établissement-là. Et vous savez, les Québécois ont le droit de travailler en français. La langue normale du travail au Québec devrait être le français. Et l'étude de l'OQLF, ce qu'elle démontre, c'est qu'il y a manifestement une problématique avec ça, qui, au cours des années, s'est empirée, et il faut rectifier la situation, et c'est ce que je veux faire.
OK. On comprend parfois qu'on embauche des gens qui ne maîtrisent pas la langue, la française, qui ne parlent pas français, mais qui finissent souvent par l'apprendre, parce que ce sont des gens qui ont une formation très spécialisée qu'on a recrutée. Mais de façon générale, dans des petits commerces, est-ce que c'est possible d'embaucher quelqu'un qui ne parle pas un mot de français puis de le faire travailler?
Bien, oui, c'est possible, mais en fait, les Québécois ont le droit de se faire servir non, en français, de se faire informer en
français. Ça, je comprends, mais dans les faits, là, est-ce qu'il y a des gens qui embauchent des personnes qui ne parlent pas un mot de français?
Oui, c'est possible.
Comment on explique ça?
Bien, vous savez, les entreprises peuvent afficher, mais en fait, affichent des postes uniquement en anglais dans certaines situations. On voit des postes qui doivent être bilingues. Je vous dirais que dans la société québécoise, il y a un sérieux coup de barre à donner au marché du travail québécois pour que le français redevienne au cœur du marché du travail québécois. Puis, il y a les entreprises privées, mais il y a aussi l'État québécois qui doit faire sa part aussi, parce que dans l'étude, ce qu'on remarque aussi, c'est que pour les municipalités puis les arrondissements à Montréal, dans 50 % des cas, il y a une exigence de l'anglais aussi. Alors, comme corps public, les municipalités, les arrondissements doivent donner l'exemple aussi. Et langue qui doit être utilisée dans l'administration publique aussi, ça doit être le français. Alors là aussi, il y a des correctifs.
Mais là, mettons que je me fais l'avocat du diable, comme on dit. Là, si tu ne parles pas anglais à Hampstead, tu vas avoir de la misère à travailler pour la ville d'Hampstead, l'arrondissement.
Mais il y a certaines municipalités, notamment, je crois, Hampstead, qui ont un statut bilingue qui est protégé par la charte. Donc, il y a certaines villes d'exception. Mais je donne un exemple, M. Arcan, la ville de Montréal, on doit s'assurer que la ville elle-même de Montréal, qui est la plus grande ville en Amérique du Nord francophone, qui est une ville de langue française, elle-même fasse la promotion, la valorisation du français dans ses offres d'emploi, puis qu'il y ait une directive qui soit donnée d'utilisation du français.
Et elle est en train de me dire que ça se fait pas?
Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a de l'amélioration à faire et que l'étude démontre que dans 50 % des cas...
OK, mais là, vous me dites ce matin que la Ville de Montréal n'en fait pas assez pour la promotion du français, dans notamment le secteur de l'embauche.
Ce que je vous dis, c'est qu'à la fois la Ville de Montréal, par le biais de ses arrondissements, avec les autres municipalités de l'Île de Montréal, dans 50 % des cas, exige la connaissance de l'anglais. Donc, nécessairement, pour un Québécois qui souhaite travailler, lorsqu'il y a des exigences comme celle-ci de connaître l'anglais pour pouvoir occuper le poste, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tous les emplois ont une exigence de devoir parler en anglais dans le cadre du poste? Je ne le crois pas et c'est pas normal qu'un travailleur québécois doive parler en anglais pour exercer son poste, pour travailler. Le français doit être la norme et il y a un coup de barre à donner au okay. niveau du marché de l'emploi québécois, particulièrement à Montréal, autant dans le public que dans le privé.
Est-ce que vous avez évalué le nombre d'emplois où, à vos yeux, ça se justifie de demander des compétences en anglais?
Mais il y a certains emplois que c'est justifié de connaître l'anglais. Donc, ça dépend des secteurs. Ça dépend également du type d'emploi aussi.
Mais l'avez-vous évalué, quand on parle d'une métropole là, comme Montréal, là, est-ce que vous vous dites, ben, il y a peut-être 20-25 % des emplois où l'anglais, ça a du sens qu'on l'exige?
Ben, en fait, il faut voir les relations, la nature de l'emploi. Alors, je ne peux pas vous dire de chiffres précisément parce que je ne détiens pas cette donnée-là précise. Il faudrait voir en fonction du type de poste et ça dépend des secteurs aussi.
OK. Je vais vous amener, parce que vous êtes le ministre de la Justice, hier, la presse publiait décision de la Cour supérieure concernant deux anciens hauts gradés de la Sûreté du Québec. C'est un jugement de 20 pages, le juge Claude Champagne, qui ramasse sévèrement le DPCP, là, le procureur général du Québec. Et je ne reprendrai pas tous les qualificatifs, là, mais du travail bâclé concernant l'ancien DG de la Sûreté du Québec, M. Deschênes. De l'acharnement sur des individus. C'est quoi votre réaction comme ministre de la Justice de voir qu'un juge comme ça ramasse à coups de bâton le DPCP?
Je n'étais pas très heureux, je vous dirais, M. Arcan. J'ai pris connaissance du jugement, puis j'ai demandé des explications à l'interne. Donc, on est en train de regarder tout ça. Et puis, vous comprendrez là, que ça fait un mois que je suis arrivé en poste comme ministre de la Justice, mais je vais regarder la situation d'une façon très sérieuse.
Parce que là, ça fait beaucoup de appelons ça, de projecteurs vers le DPCP sur de l'acharnement, sur des façons de faire, sur des dossiers. Avez-vous toujours confiance en Maître Murphy, vous?
Oui. Oui. Vous savez, le DPCP jouit d'une indépendance par rapport au ministre de la Justice, par rapport au procureur général. Donc, les accusations ne font pas l'objet d'évaluation politique, moi, comme ministre de la Justice.
Non, mais sans... Non, ça, je comprends, mais il faut avoir un lien de confiance avec les gens qui sont au DPCP. Là, je ne vous demande pas d'évaluer chacun des dossiers, puis je ne m'attends pas à ce que le ministre se mêle les accusations, mais il faut avoir confiance que le système fonctionne. Si vous trouvez que le DPCP, ça va bien, ben vous êtes satisfait, donc.
Bien, ce que je dis, c'est que j'ai confiance en Maître Murphy, qui est à la tête du directeur des poursuites criminelles et pénales. Et j'arrive en poste comme ministre de la Justice et les différentes problématiques qui sont soulevées, je vais les étudier et prendre les actions qui s'imposent s'il y a action à prendre.
OK, merci. Bonne journée, Simon.
Merci à vous, Marrette,
qui est le ministre de la Justice et le responsable du dossier de la langue française également.